Le scandale Panama Papers pourrait-il contribuer à moraliser la finance de l'ombre? L'enquête sur les montages offshore au Panama a secoué le monde politique, il a touché des avocats ou encore des stars du football. Pourquoi maintenant? Pourquoi une telle ampleur? Paul Jorion, anthropologue et économiste, est l'invité de Haute Définition cette semaine.
Haute Définition, Manuela Salvi.
Bonjour Paul Jorion.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, économiste, trader dans une autre vie aux États-Unis. Se mord de panique, disent certains, ou simplement lucide. Votre dernier livre chez Fayard, le titre « Le dernier qui s'en va éteint la lumière », et c'est sur l'extinction de l'humanité. Vous n'êtes pas franchement optimiste, Paul Jorion?
Non, je crois qu'il faut poser la question. Ce n'est pas une question, je dirais, d'optimisme ou de pessimisme, mais je crois qu'il faut une lucidité plutôt qu'un optimisme ou un pessimisme. C'est-à-dire voir que de la manière dont on est lancé, on risque effectivement, comme nous disent les physiciens, comme nous disent les climatologues, on risque la survie de l'espèce à l'échelle de 2 ou 3 générations. Donc c'est un problème qui mérite quand même un tout petit peu d'attention. Et je trouvais qu'il y a peu de gens qui s'y consacrent aussi. Il y a un petit groupe de gens qui s'appellent maintenant des collapsologues qui s'intéressent à ça, mais ça paraît une espèce de spécialité de niche, alors qu'en fait, ça devrait être le problème de tout le monde.
Et vous voulez réveiller les consciences, Paul Jorion, vous dénoncez la logique du profit, l'évasion fiscale en serait d'ailleurs le symptôme, le scandale des Panama Papers a suscité une onde de choc, est-elle salutaire? Il est vrai que des personnalités politiques, du monde du sport, du barreau ont été prises dans les filets des révélations, l'indignation est aussi planétaire, est-ce qu'elle vous surprend?
On peut être surpris par le fait que la plupart des faits qu'on découvre sont des choses qui sont connues depuis plusieurs années. Il y a des gros livres qui ont été consacrés à ça et c'est des livres même qui n'ont pas été confidentiels puisqu'il y en a qui ont été des succès de vente, des succès de librairie. On peut se poser la question pourquoi on appelle scandale des choses qui dont on s'accommodait finalement très bien il y a 5 ans. Alors il y a la question qui se pose peut-être d'une certaine orchestration à certains moments, qu'il y a des choses qui tombent au bon moment.
Mais orchestration, pour quelle raison et par qui?
Eh bien, par les États. Il y a peut-être une revanche dont on imaginait peut-être qu'elle n'aurait plus jamais lieu, mais qui vient après les événements de 2008, où, vous savez, après que les financiers quand même nous aient mis dans des grosses difficultés, ils avaient repris la direction des affaires en faisant très très peu attention à ce que disait le reste du public. Et alors, il y a peut-être eu un ressentiment du côté des États en se disant, on va quand même reprendre un petit peu du pouvoir. Et ça ne vient pas nécessairement de l'Europe. On a l'impression qu'une orchestration, je dirais, d'une reprise en main, elle vient en fait assez curieusement des États-Unis. C'est eux qui lancent un grand nombre d'offensives. Les sommes qui disparaissent sont, je dirais, apparemment très élevées maintenant par rapport à l'argent dont les États auraient besoin. Eh bien, il y a une sorte de tentative de remettre de l'ordre là-dedans, en disant, cet argent-là, nous en avons besoin chez nous. C'est pour ça qu'on peut avoir un peu une suspicion d'orchestration par rapport au dernier scandale des Panama Leaks, comme vous avez dû le voir. Personne ne s'intéresse à qui est le lanceur d'alerte, c'est qui est quand même un peu curieux.
Donc il n'y a pas de hasard. Mais vous dites aussi rien de neuf sur les pratiques. Ce Panama Papers ne révèle rien. Les pratiques sont très bien documentées. Alors je reviens à mon idée du scandale de trop. Est-ce que c'est le bon moment pour moraliser la finance de l'ombre?
C'est-à-dire il y a eu la montée des populismes dans les pays. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui considèrent que les politiciens ne font pas leur boulot. Et au niveau, dans les pays, on peut toujours avoir des élections, des gens qui sont élus. Mais si ça devient sur un nombre de la population qui se déplace pour aller voter qui devient vraiment minimal, à ce moment-là, il y a une question de légitimité. On n'aime pas d'avoir trop de gens dans la rue, surtout dans des contextes où des gens dans la rue, ce sont des gens qui s'exposent éventuellement à des attentats terroristes, donc c'est pas bien, il faut pas encourager ça. Donc je crois qu'il y a au niveau des gouvernements une écoute qui est en train de devenir meilleure par rapport à ce que les peuples demandent, pas simplement la partie populiste des peuples, mais les peuples en général, et je crois que ça c'est une bonne chose. Oui.
Alors l'indignation effectivement a porté les Islandais dans la rue, à Paris c'était aussi des manifestations avec des pancartes « Peuple racketté, ça suffit ». Vous parliez de revanche, presque même de vengeance des États face aux banques qu'ils ont sauvées. Revanche pour ramener de l'argent dans les caisses publiques parce que l'opinion publique ne sera plus d'accord de sauver des banques qui travaillent dans la finance de l'ombre, qui sont le cœur de la finance de l'ombre.
C'est-à-dire qu'il y a une chose à laquelle on n'a pas pensé. On a introduit dans nos États l'État-providence, qui est une chose excellente. Mais on a lié son sort à la croissance. Or, on est dans une situation de stagnation économique depuis pas mal d'années, et donc il faut trouver l'argent pour soutenir l'État-providence. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que voilà, les peuples, entre guillemets, c'est une chose à laquelle ils tiennent, l'État-providence, et que là, ils pourraient véritablement se fâcher. Donc, si ce n'est pas la croissance qui apporte l'argent, eh bien, il faut peut-être faire rentrer des rentrées fiscales qui permettent de continuer à soutenir ce système en tant que tel.
Donc ça veut dire que la fraude fiscale, Paul Jorion, a évidemment un impact sur la confiance que les citoyens peuvent accorder à des politiques qui fraudent ou qui évadent le fisc. Mais il y a aussi un impact sur nos démocraties qui sont enchaînées, et là je vous cite, sinon la finance seule, du moins sans le moindre doute, face au pouvoir de l'argent.
Oui, c'est-à-dire, il y a une étude qui a été faite par deux professeurs de Chicago. Ils appartiennent à des universités différentes, mais ils ont fait une étude très très intéressante. Ils sont intéressés à un certain nombre de demandes qui apparaissent dans le public. Ils sont allés voir dans la presse, la télévision, qu'est-ce que les gens demandent. Et ils sont allés voir ce qu'il advenait de cela au moment où ça devait être voté par les parlements. Et ils se sont rendus compte que la quasi-totalité de ces choses que le peuple demande n'arrive jamais au niveau des parlements. C'est même pas que les parlements refusent de voter des lois dans cette direction-là, mais c'est que ça n'arrive jamais à ce niveau-là. Mais il y a quand même des lois qui sont votées, ils se sont posés la question qui est-ce qui propose les lois qui sont votées, et ils sont arrivés à la conclusion qu'il s'agit d'un petit groupe constitué d'individus extrêmement riches, fortunés, et des grandes sociétés nationales ou transnationales. Et ce sont eux, en fait, parce que les lobbies écrivent les textes qui sont soumis ensuite aux représentants du peuple, qui décident de ce qui va se passer. Donc c'est vrai qu'effectivement nous sommes passés à une démocratie, insensiblement, à une démocratie qui était, je dirais peut-être véritable dans les années 50, à une démocratie qui est de plus en plus censitaire, c'est-à-dire que le pouvoir que vous allez avoir sur ce qui va se passer dépend de la quantité d'argent qui est derrière vous.
Mais vous n'êtes pas là, Paul Jorion, dans la théorie du complot, d'une élite, d'une petite élite qui dirige le monde ?
Eh bien, on pourrait dire que c'est une théorie du complot. Sauf que à Zurich, donc, que vous connaissez sans doute, à l'école polytechnique de Zurich, c'était en 2011, il y a une étude qui a été faite, une étude scientifique avec les méthodes mathématiques les plus complètes que l'on puisse utiliser, et qui s'est intéressée justement aux structures de pouvoir. Et ce qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé des choses qui sont, je dirais, bien pires que ce qu'imagine la presse complotiste sur l'Internet. Ils se sont arrivés qu'il y a quelque chose de l'ordre de 147 entreprises qui dirige la moitié du monde, et que derrière ces entreprises, il y a encore des individus qui sont encore moins nombreux qui prennent les décisions qui vont être prises. C'est-à-dire qu'en fait, ce que par ignorance, par théorie du complot, parce que les gens à fabule avaient imaginé d'un très petit nombre de gens qui dirigent le monde, en fait, c'est vrai.
Donc ça pose la question des élites, mais aussi de la solidarité.
Oui, parce qu'on nous met l'accent toujours, on nous dit oui, mais c'est la concurrence qui va sauver le monde, il faut une concurrence parfaite sur les marchés, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est la solidarité qui fait marcher le monde.
Mais le point commun entre la fraude, l'évasion fiscale et ces entreprises qui maîtriseraient le monde, c'est l'argent. Alors est-ce que l'argent est la clé ultime de notre monde, avec en point de mire la cupidité ?
Mais c'est pas l'argent en tant que tel. Moi, j'ai tendance à voir l'argent comme un outil relativement neutre. Non, ce sont les rapports de force qui jouent autour de cela. Et en particulier que dans le contexte international, il n'y a pas de paradis fiscal en tant que tel. Mais chaque pays est un paradis fiscal par rapport à un autre où on est traité différemment. Ce qu'il faut, imaginer, c'est que quand même qu'on aille vers une unification de la manière dont on traite la fiscalité dans l'ensemble des pays pour empêcher qu'il y ait cet encouragement à ce qu'on se dise, tiens, si on demandait un tout petit peu moins à telle compagnie, on pourrait lui demander de venir chez nous et elle le ferait, parce que c'est une course sans fin. Tant qu'on raisonne de cette manière-là, les problèmes ne seront pas résolus.
Unification, donc transparence aussi.
Transparence, bien entendu, parce que c'est ça le grand paradoxe de la finance. Les grands livres de théorie financière nous disent que c'est seule la transparence qui peut faire marcher le marché. Mais quand on regarde dans les faits, tout ce qui est fait, tout ce qu'on nous demande, c'est une suppression de la transparence. Quand M. Trichet, à la tête de la Banque Centrale Européenne, on lui dit qu'est-ce qui s'est passé exactement en 2009 sur la redistribution de l'argent qui a été injecté, il dit les marchés sont malheureusement trop fragiles en ce moment pour qu'on puisse répondre à une question de cet ordre-là. On nous prétend que la transparence est essentielle, mais en fait, c'est l'absence de transparence qui fait fonctionner le système, et on continue de la maintenir, et on ajoute encore des choses, comme par exemple tous ces établissements financiers qui en réalité n'ont qu'une adresse postale et dont on ne connaît pas les directeurs. Non, la transparence, elle doit être imposée, mais malheureusement, il faut bien savoir que la transparence telle qu'elle est par rapport à la finance qui existe aujourd'hui, elle la détruirait.
Mais moraliser la finance, on le sait bien, Paul Jorion, on le range au magasin des accessoires.
On n'en a jamais vraiment parlé. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les économistes nous ont dit qu'il y avait une extraterritorialité de la finance par rapport à la morale, par rapport à l'éthique. Pourquoi ? Bien parce que l'homme est rationnel et la rationalité de l'homme, c'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec la vertu, avec les vices, avec un système moral en général. Il faut laisser la finance opérer selon les bons calculs d'utilité des intervenants. Et ça, cette prétention, vous avez vu, c'est en 2008, ça a été très typique. Au moment de l'effondrement, on a dit moraliser les finances. Mais moraliser la finance, c'est l'exact contraire de ce qui s'était fait jusque-là. Et avec l'aide des philosophes et avec la complicité des prix Nobel d'économie qui nous disaient que l'homme rationnel n'a pas besoin d'un système moral, la question qu'il faut poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut se permettre, est-ce que nous pouvons continuer de nous permettre d'avoir un système financier qui prétend que les règles morales et éthiques qui s'appliquent à tout le monde ne s'appliquent pas à lui ?
Mais on peut vous rétorquer, Paul Jorion, qu'il faut faire avec, parce que la cupidité fait partie de notre ADN.
Oui, mais vous vous souvenez, il y avait un discours autrefois, on parlait plutôt des vertus que des vices. Et puis tout à coup, on nous a dit que les vices, c'était la meilleure chose. Et alors, vous vous souvenez sans doute du film Wall Street, où on disait la cupidité, c'est formidable, etc. Mais je crois que c'est surtout à ça que 2008 a mis fin. À mettre la cupidité au centre des affaires, à faire du veau d'or, comme disait Moïse, le centre de notre attention. Nous avons un monde qui est de plus en plus fragile et qui aura de plus en plus besoin que nous organisions des véritables solidarités pour le faire continuer à fonctionner sans que l'espèce disparaisse. Il faut absolument qu'on se tourne vers ça le plus vite possible.
Vous avez raison, Paul Jorion, les solidarités sont nécessaires, mais si les États récupèrent cet argent de l'évasion et de la fraude fiscale, pour en faire quoi ? Parce que vous le savez aussi que le monde politique est discrédité et qu'on lui reproche de gaspiller l'argent public.
Oui, mais le monde politique, il est en train de se rendre compte qu'on est en train de lui demander des comptes. Et ce qu'on appelle la montée des populismes, c'est demander des comptes, précisément. Vous savez, dans les époques où des mouvements radicaux apparaissent, de type fascisme, etc., on dit politiciens tous pourris. Il ne faut pas qu'on en arrive à cette situation-là. Il faut qu'il y ait de nouveau un sens de l'intérêt général qui commence à prévaloir. Et l'intérêt général, c'est ça, il faut le dire. Et ça, il faut le dire au milieu de la finance. L'intérêt général, ce n'est pas simplement une mosaïque d'intérêts particuliers. C'est quelque chose qui fait que la société dans son ensemble fonctionne. Pour employer les termes de Keynes, il ne faut pas essayer de viser un accord parfait de tous les citoyens, on n'arrivera jamais, parce que des goûts et des couleurs, etc. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que la dissension atteigne un minimum, que le ressentiment ne devienne pas le sentiment de tout le monde. Qu'est-ce que c'est que le populisme ? C'est quand le ressentiment devient la valeur dominante parmi les populations.
Mais quel est le point faible, Paul Jorion, sur lequel il est possible d'agir avant que le système n'implose ?
Eh bien, je m'aperçois qu'il y avait une chose qu'on appelait autrefois, on appelait ça le sens de l'État, et on demandait aux fonctionnaires d'avoir le sens de l'État. Et puis, il y a eu une période, à partir des années 1970, où on a dit aux fonctionnaires, écoutez, l'État, c'est une entreprise comme une autre, il faut qu'il fonctionne comme une entreprise, etc. Et à partir de ce moment-là, le sens de l'État a disparu. Ce que je vois réapparaître, petit à petit, depuis 2008, c'est qu'on commence à nouveau à comprendre que l'homme est un être social, qu'il vit en société, et que ce n'est pas pour le plaisir, c'est qu'effectivement, il faut un véritable contrat social entre l'ensemble des personnes et de plus en plus au niveau des gouvernements, des banques centrales, etc. Je vois réapparaître quand même ce sentiment de comprendre qu'il y a un tout qui est plus fort que les parties.
Donc vous plaidez, Paul Jorion, dans votre dernier livre, pour un nouveau contrat social, pour avoir un autre dessin, un autre horizon que celui imaginé par la finance ?
Oui, bien entendu. Mais c'est la seule condition pour que l'espèce survive. On a beaucoup parlé de la main visible d'Adam Smith, que chacun suit son intérêt particulier et que le système fonctionnera bien. C'est bien quand les choses, je dirais, sont dans un mode ordinaire. Mais ce système-là de la main visible, il ne tient pas compte, absolument pas, du fait que l'espèce pourrait être en péril. Or, c'est le cas maintenant. La main visible ne nous sauvera pas de l'extinction. Il faut qu'on s'en rende compte et que la réflexion entre sur cette question-là, sur un autre mode que celui simplement de la mosaïque des intérêt particulier. Il faut que la notion d'intérêt général revienne au centre des préoccupations et qu'un certain nombre de personnes s'identifient à cet intérêt général pour le défendre.
Mais c'est à ce prix-là, Paul Jorion, que la lumière restera allumée.
Oui, il est essentiel que la lumière reste allumée, pas simplement, je dirais, par une espèce de militantisme plus pour notre propre espèce, mais il faut bien voir que malgré tout ce que nous faisons, l'horreur que nous avons organisons tous les jours parce que nous utilisons encore la guerre comme le moyen de résoudre la plupart de nos problèmes, nous sommes une espèce quand même qui a fait des réussites extraordinaires dont nous n'avons pas la preuve que ailleurs dans l'univers cela ait lieu. Nous inventons une technologie qui nous a permis de vivre dans de bien meilleures conditions qu'autrefois, de voir nos enfants pratiquement tous arriver à l'âge adulte. Nous vivons bien mieux, dans un meilleur confort. Nous pouvons faire véritablement une sorte de paradis du monde dans lequel nous sommes, mais il faut que nous ayons un système économique qui permette de le faire et pas un système qui permet à une toute petite frange de la population d'avoir une vie formidable et tous les autres se battent tous les jours pour de survivre simplement.
Alors il faut réveiller les consciences. Merci Paul Jorian, votre dernier livre, Le dernier qui s'en va, éteint la lumière et c'est chez Fayard. Pas de pessimisme mais de la lucidité, c'est ça?
Oui, j'espère.
Voilà, Paul Jorian avec Manuela Salvi, Haute Définition, c'est à retrouver ce soir à 22h40 sur la première.